temps, on a déjà arrêté comme on a dit, il ne faut surtout pas, parce que alors vous assénez des principes. Dans la passion, vous savez, comme principe, hein, c'est assez particulier, c'est comme principe, c'est très difficile. Eux sont dans le conditionnement, vous voyez, la complexité. Alors ils trouvent toujours que le philosophe simplifie. Le philosophe ne simplifie pas, mais il sait saisir des arêtes intellectuelles. Mais il ne simplifie pas dans la mesure où il respecte le domaine psychologique. Dans la mesure où il reconnaît que ce domaine psychologique, il doit être étudié pour lui-même. Étudié pour lui-même, attention, si on voulait l'étudier bien, il devrait étudier en fonction de la philosophie. Et c'est ça qui n'est pas fait. Et c'est ça qu'on devrait faire. Pour l'éducation. On devrait. L'amour est-il la cause de tout ce qu'on fait quand on aime? C'est beau comme question. C'est grandiose. Alors c'est une question qu'il faut essayer. Alors je ne vais pas voir avec vous toutes les difficultés. Je vais simplement essayer d'entrer dans la doctrine elle-même. Donc, l'union est-elle un effet de l'amour? L'amour est capable, avec l'absence, selon ce mot de l'apôtre, parlant de lui-même, il est beau d'être l'objet d'une vive affection, quand c'est dans le bien, toujours et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. L'union opposée à l'absence n'est donc pas un effet de l'amour. On peut aimer quelqu'un qui est absent, et l'amour ne réalise pas nécessairement l'union. Alors, réponse de saint Thomas. Denis. Là, c'est intéressant de voir les sources de saint Thomas. Vous comprenez, les sources de saint Thomas, c'est Denis. Vous savez qui est Denis? C'est pas Denis la Areopagite. Alors, on dit le pseudo-Denis. Pour dire tout simplement Denis. Denis Cappadocien, du 6e siècle. Donc, les sources, c'est Denis Aristote. Alors c'est intéressant parce que Denis est néoplatonicien. Une fois de plus, voyez, saint Thomas va de fait, je ne dis pas faire la synthèse du néoplatonisme et de l'aristotélisme, mais saint Thomas va assumer le néoplatonisme à travers une analyse aristotélicienne. Et c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Donc Denis affirme que tout amour est une force unitive, virtus unitiva. Dunamis, puisque c'est en grec. Voici le raisonnement de saint Thomas. Il y a deux formes d'union. Duplex est unio, de l'aimant et de l'aimé. La première se fait dans la réalité, lorsque l'aimé est présent réellement à l'aimant. L'autre est union affective. Donc c'est ce qu'on appelle ordinairement l'union effective et l'union affective. Oui, l'une est dans psychique, on dirait, l'union affective est dans psychique, dans l'intérieur, c'est notre psychisme il est composé des passions. Hein. Quand on étudie les passions, on étudie ce que les psychologues appellent le psychisme. Le psychisme, il est fait de nos passions et de l'imaginaire. Et nous l'analysons pour essayer de comprendre dans le psychisme ce que représente le point de vue connaissance et le point de vue amour. Donc, l'union affective qui doit être analysée en fonction de la connaissance antécédente, car tout mouvement de l'appétit fait suite à une connaissance. Les deux amours, celui de convoitise et celui d'amitié, procèdent l'un et l'autre d'une certaine connaissance de l'unité de l'aimant et de l'aimé. En effet, lorsqu'on aime quelque chose par convoitise, on la considère comme appartenant à la perfection de son être propre. Et de même, quand on aime quelqu'un d'un amour d'amitié, on lui veut du bien comme on s'en veut à soi-même. C'est donc qu'on l'appréhende comme un autre soi-même, en tant qu'on lui veut du bien comme à soi. L'ami n'est-il pas un autre soi-même ? Et là, c'est Aristote, hein, vous voyez bien. C'est directement Aristote que saint Thomas cite. L'ami n'est-il pas un autre soi-même ? Et saint Augustin ne dit-il pas ? Il a bien parlé de son ami, celui qu'il a appelé la moitié de son âme. C'est un peu plus romantique, n'est-ce pas ? On voit la différence entre Aristote et saint Augustin, n'est-ce pas ? La moitié de son âme, l'âme sœur, vous savez, qu'on a rencontrée. Elle avait été décollée, on ne sait pas quand, et puis tout d'un coup, on veut la recoller. Celui qui l'a appelé la moitié de son âme. La première forme d'union, l'amour la produit par manière de cause efficiente, car il pousse à désirer et à rechercher la présence de l'aimé comme chose qui lui convient et qui lui appartient. Donc l'union effective est un effet direct de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on veut être présent à cette personne. Et on veut que cette personne nous soit présente. La seconde espèce d'union est causée par l'amour selon une causalité formelle, étant lui-même cette union ou ce lien. L'amour fait l'union affective. L'amour est l'union affective, tandis que l'union effective n'est qu'une conséquence de l'amour. C'est très très important à comprendre ça. C'est capital. Hein. Si on comprend ça, on a le repos de l'âme. Et si on ne comprend pas, on n'a pas de repos de l'âme. C'est très curieux. C'est très très important à saisir. Évidemment, ça demande une lucidité dans l'ordre affectif. Ce qui fait dire à saint Augustin que l'amour est comme une sorte de vie unissant deux êtres ou cherchant à les unir. L'aimant est l'objet de son amour. Le mot unissant se rapporte à l'union affective sans laquelle il n'est point d'amour. Et ces mots cherchant à unir visent l'union réelle. Donc, il faut bien saisir le rapport. Hein. C'est ça que saint Thomas essaie de comprendre. Nous sommes dans un traité de l'amour-passion. Traité de l'amour-passion. Donc, on est au niveau de l'amour sensible. Mais pour saint Thomas, et c'est ça qui est intéressant à voir, cet amour intéresse le théologien parce que grâce à la pénétration plus ou moins grande que j'aurai de cet amour-passion, je comprendrai mieux la ration amoureuse. La raison d'amour. C'est ça que saint Thomas cherche, vous comprenez. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? C'est difficile de savoir ce que c'est que l'amour, hein, parce que ça ne se définit pas. Ça ne peut pas se définir. Vous ne pouvez pas définir l'amour. C'est pour ça que si vous n'avez qu'une une philosophie de la définition, l'amour est loin, parce que l'amour est au-delà de toute définition. Vous ne pouvez pas définir l'amour, c'est au-delà. Alors, l'amour-passion, j'en ai une expérience vécue. Dans ce qu'on écrit ici, et grâce. C'est bien. L'amour-passion, en concupiscible, l'irascible. Le concupiscible, hein, c'est de vouloir, c'est aimer le bien sensible, le bien immédiat. Et l'irascible, c'est aimer le bien difficile, l'ardoune. Expression très belle, l'ardoune, c'est bien difficile, c'est pas sur l'ardoune. Bon, alors la passion amour va impliquer, quel est le lien entre la passion amour et l'union? L'énosis, en grec, hein, l'énosis, l'union. L'énosis que les platoniciens aiment tellement, que vous retrouvez tout le temps dans Plotin, l'énosis, l'union. Alors, saint Thomas fait tout de suite une distinction que les néoplatoniciens ne font pas. pas l'oublier, ça. Hein, que les néoplatoniciens ne sont pas. Les néoplatoniciens parlent uniquement de l'émotion. Belle manière de regarder Platon, c'est de chercher dans Platon l'énosis. Qu'est-ce que c'est que l'union? Alors, l'union est ou affective? Ou effective? Ça veut pas dire ainsi, réelle. Ça ne veut pas dire que celle-là n'est pas réelle. Mais elle est intentionnelle. L'union affective est intentionnelle. Et c'est notre psychisme, ça. Notre psychisme, il est intentionnel, hein, au point de vue philosophique, c'est l'intentionnalité. Et c'est une intentionnalité affective, liée à l'imaginaire. Bien. L'union, l'amour-passion et l'union affective. L'amour, c'est une union affective. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes uni affectivement à lui. C'est une union affective. C'est quelque chose qui me transforme en celui que j'aime. Et donc je suis uni affectivement à lui, dès que j'aime. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. C'est le vieil adage. Et c'est bien ça, c'est que dès que vous aimez quelqu'un, vous prenez sa manière de vivre. Et c'est quelquefois, ça va jusqu'à le fait d'imiter. Donc, aimer, c'est implique, on ne dit pas une imitation, mais une union affective. Notre cœur est pris, affectivement. Il est dans l'union. Il y a une union qui se fait entre l'aimant et l'objet aimé. Tandis que l'union réelle, effective, c'est une conséquence, c'est un effet. Par le fait même, l'amour peut exister sans cet effet, tandis que l'amour n'existe pas sans l'union affective. C'est capital de comprendre ça. Alors si vous confondez les deux, voyez ce que ça fait. Vous ne pouvez plus vivre d'amour sans l'union affective. Alors, dès qu'il y a séparation, c'est catastrophique. Tandis qu'au contraire, si vous comprenez que l'amour, l'union, l'amour-passion est une union affective et que l'union affective est au-dessus de la présence et de l'absence. C'est au-dessus. Et quelquefois, l'union affective grandit grâce à l'absence. C'est très bien. Ça ne veut pas à cause de ça que l'union fait absence. Hein. On ne dit pas ça. Mais occasionnellement, ça peut se faire. Le danger, c'est alors d'idéaliser. Oui. Pour des fiancés, par exemple. C'est très important, ça. Est-ce qu'ils doivent avoir beaucoup ou pas beaucoup? Bien, les circonstances, souvent, dictent les choses. Hein. Eh bien, quand ils ne peuvent pas se voir, parce que comme en Suisse, on se fréquente longuement, n'est-ce pas ? La fréquentation, ça dure longtemps. Alors à ce moment-là, il y a une idéalisation qui peut se faire, si on est absent. Et c'est vrai, c'est l'imagination. Tandis que la présence réelle supprime l'idéalisation. Ah, tu es si brutal, je ne croyais pas. Ah oui, tandis que s'il n'y avait pas l'union réelle, on aurait idéalisé. Idéaliser n'est jamais bon, parce que ça entretient l'amour affectif romantique. L'amour affectif romantique, c'est l'idéalisation de l'amour passionnel. L'amour passionnel n'est pas romantique en soi. Il est romantique à cause de l'imagination. Alors vous idéalisez celui que vous aimez. Vous idéalisez... Dans l'ordre de la concupiscence, ça, alors, vous voyez, la Madeleine de Proust. Hein? Cette Madeleine merveilleuse que vous avez mangée une fois dans votre vie et vous ne l'avez jamais retrouvée, elle est toujours absente. Alors vous l'idéalisez, et plus vous l'idéalisez, moins vous la retrouverez. Ça, c'est bien évident. Et donc, vous voyez bien, si au contraire, vous n'idéalisez pas, votre amour affectif, votre union affective est beaucoup plus réelle. Et c'est en sens ça que c'est très, très délicat, le point de vue de l'union affective et de l'union affective. Et c'est très intéressant, cette distinction que saint Thomas fait pour, face au néoplatonisme, pour montrer le réalisme d'Aristote, le réalisme de l'amour. L'amour en lui-même, c'est une union affective. Alors, je relis pour que vous voyez bien ce point de vue-là. L'autre est une union affective, c'est ça qui m'intéresse ici avant tout, hein, qui doit être analysée en fonction de la connaissance antécédente, car tout mouvement de l'appétit fait suite à une connaissance. Donc, cette union affective doit être analysée, doit être considérée, d'être considérandum, il ne dit pas analyser, hein, ex apprehensione precedente, de l'appréhension précédente, car le mouvement de l'appétit, sequitur, suit l'appréhension. Donc la connaissance affective, l'union affective, doit se considérer à partir de la connaissance antécédente, de l'appréhension précédente. Les deux amours, celui de convoitise et celui d'amitié, procèdent l'un et l'autre d'une certaine connaissance de l'unité, de l'aimant et de l'aimé. Donc, l'amour va naître, et c'est ça que saint Thomas souligne, c'est les deux amours, celui de convoitise et celui d'amour d'amitié, procèdent l'un et l'autre d'une certaine connaissance de l'unité de l'aimant et de l'aimé. Pour que l'amour naisse, il faut une connaissance de l'unité de l'aimant et de l'aimé. En effet, lorsqu'on aime quelque chose par convoitise, on la considère comme appartenant à la perfection de son être propre. Lorsqu'on aime quelque chose par convoitise, la concupiscence, on appréhende cela comme appartenant à son bénéfice, à son bien-être. Oui, on appartient comme son bien, comme notre bien, notre prolongement. On se prolonge dans le bien sensible dans lequel on se trouve. Et de même, quand on aime quelqu'un d'un amour d'amitié, on lui veut du bien comme on s'en veut à soi-même. On aime l'ami comme un autre soi-même. C'est donc qu'on l'appréhende comme un autre soi-même, en tant qu'on lui veut du bien comme à soi. L'ami n'est-il pas un autre soi-même? Et selon saint Augustin, il a bien parlé de son ami, celui qu'il a appelé la moitié de son âme. Donc, vous voyez le raisonnement de saint Thomas, qui est assez curieux et intéressant à voir. Pour bien comprendre comment l'amour passion est de fait union affective, il faut considérer l'origine de cet amour. L'origine de cet amour est une appréhension. Appréhension, c'est-à-dire une connaissance. Une connaissance sainte. Appréhension, c'est toujours une connaissance sainte. Une connaissance sainte. Une connaissance sainte du bien comme étant mon bien, donc comme m'étant uni, puisque c'est mon bien. Autrement, je n'aimerais pas. Alors, je le considère comme mon bien. Dans le point de vue de la concupiscence, je le considère comme le prolongement même de moi, et dans l'amour d'amitié, je le considère comme étant un avec moi. L'amour naît donc à partir d'une certaine appréhension d'unité. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur de l'amour, vous découvrez l'union. Mais le raisonnement, c'est très beau comme analyse. Hein. C'est intéressant de bien voir ça, de voir comment l'amour est union affective. Pourquoi l'amour est-il union affective? Parce qu'au point de départ de l'amour, il y a toujours une certaine connaissance de l'unité entre l'aimant et l'aimé. Et parce qu'il y a une certaine connaissance, alors une connaissance qui peut être, on est semblable, l'âme sœur, on l'avait cherché pendant si longtemps. Ah, on l'avait rencontré. J'ai découvert l'âme sœur extraordinaire. C'est ça, c'est l'âme sœur. On n'avait jamais pensé qu'on aurait découvert quelqu'un d'aussi proche que nous. C'est le point de vue, donc, c'est intéressant parce que la première chose que saint Thomas donne par rapport à l'amour d'amitié, oui, c'est pas la complémentarité. C'est l'unité. C'est l'unité. La complémentarité vient après. Je ne dis pas que la complémentarité vient parce qu'on est déçu, parce qu'il n'y a pas d'unité, alors tu seras complémentaire. Tu n'es pas un avec moi, tu seras complémentaire. Non, c'est pas ça. C'est autre chose. C'est pour une autre raison. Mais c'est vrai que ce qu'il y a de premier dans l'amour, c'est l'unité. Et donc, l'amour fait l'union affective. Alors, voyons tout de suite l'article suivant, parce que je ne veux pas tarder trop, bien que ce soit très intéressant. C'est extrêmement intéressant d'étudier les effets de l'amour et de le comprendre par le fait même mieux ce que c'est que l'amour. L'existence mutuelle en autrui est-elle un effet de l'amour? Alors, comprenez bien, c'est l'inésion mutuelle. Alors, quand on dit l'existence mutuelle, ça ne va plus très bien. C'est l'inésion mutuelle. Demeurez en moi et moi en vous. Hein, c'est ça dans saint Jean. Demeurez en moi et moi en vous. C'est l'inésion mutuelle, demeurez. Quand on demeure chez quelqu'un, on inère. On s'assied. C'est ça, demeurer. Hein. C'est pas seulement passer. Un lieu de passage, on sait ce que c'est. Avec un lieu où on demeure, c'est très très différent. C'est le stabat. On demeure. Tandis qu'un lieu de passage, c'est un lieu de passage. Vous voyez, la croix est un lieu de passage pour tout le monde et c'est un lieu d'immérence pour Marie. Parce que c'est dit dans l'Écriture que en dehors de la ville, le lieu de passage. Et Marie s'abat parce qu'elle aime. Quand on aime, on s'arrête. Or, on ne peut à la fois contenir et être contenu. Ça, c'est l'inésion. Mais c'est l'inésion mutuelle et l'objection. On montre que ce n'est pas ça du tout. Hein. Alors, saint Thomas répond. Cependant, il est écrit dans saint Jean, celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. Vous voyez, c'est assez extraordinaire de se servir de ce texte de saint Jean pour exprimer ce que c'est que l'effet de la passion. C'est admirable, ça. Ça, c'est un théologien. Il prend la parole de saint Jean, demeurez en moi et moi en vous, pour comprendre ce que c'est que la passion. Là, vous voyez que saint Thomas n'est pas stoïcien. Et vous comprenez la parenté de saint Thomas et de saint Jean. Ça, c'est des choses très étonnantes quand on voit ça. Il est écrit dans saint Jean, celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. Or, la charité, c'est l'amour de Dieu, l'agapé. Et donc, pour la même raison, eadem rationé. Vous voyez, c'est la ratio amoris qu'il cherche. C'est bien la ratio amoris. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Alors, l'amour spirituel, l'amour le plus amour, l'amour véritable, l'amour surnaturel, me fait comprendre ce que c'est que la passion amour. C'est vrai, il faut faire ça. Et de temps en temps, il faut pouvoir le dire. Je me souviens, j'étais à Fribourg, sitôt la guerre. Il y avait un garçon merveilleux, je ne nomme pas, mais pendant la guerre, il avait une conduite extraordinaire, héroïque, dans le maquis. Et extraordinaire. Mais après la guerre, vous comprenez, il faisait des ravages. Partout où il passait, ça faisait des ravages effrayants. Alors comme il y avait des parents qui étaient à Fribourg, on m'avait dit, essayez quand même de le rendre un peu plus sage, c'était pas commode, c'était un gars qui était plein de sang. Vraiment, un pur sang, vraiment. Extraordinaire. Les situations héroïques étaient faites pour lui. Mais quand ils n'avaient plus de situations héroïques, c'était effrayant. Ils n'avaient plus. Alors, vous comprenez que ce n'était pas commode de lui parler. Et alors, à ce moment-là, il faut parler directement le langage le plus profond de l'amour. Alors, au bout de 3 minutes que je lui dis, vous pouvez dire tout ce que vous n'y connaissez rien. Elle dit, ah, c'est bon de dire ça. Je n'y connais rien dans l'amour. Eh bien, je connais beaucoup mieux que vous dans l'amour. Pendant 1 heure, on a discuté pied à pied. Et chaque fois, je montrais qu'il ne connaissait rien dans l'amour. Parce qu'il était dans l'amour passionnel, uniquement dans l'amour passionnel. Alors, au bout d'une heure, il m'a tendu la main, m'a dit merci, m'avoir dit ça. On m'aurait parlé au niveau de l'amour passionnel. Je bats tout le monde dans ce domaine-là. Mais je suis battu au niveau de l'amour dont vous parlez. Et je suis obligé de reconnaître que c'est vrai, que l'amour passionnel, ça tourne en rond. On cherche tout le temps et on n'arrive jamais à trouver. Et c'est vrai, c'est très vrai. La ratio à Maurice, hein, vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est très très important de saisir ce langage de saint Thomas, ce réalisme du langage de saint Thomas. Jean, quand il dit « celui qui demeure dans la charité », c'est Jésus qui dit ça en Jean, « celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui », nous fait comprendre ce que c'est que l'amour passion. Je suis la lumière du monde. Et donc, pour la même raison, tout amour réalise cette inhabitation mutuelle de l'aimant et de l'aimé. Que l'aimant soit dans l'aimé, et inversement, cela peut s'entendre au double point de vue de la connaissance et de l'affectivité. Nouvelle division que les néoplatoniciens ne font pas. Ils prennent toujours l'inésio. Ils prennent toujours énosis, l'union. Ils ne font pas ces divisions. C'est là qu'on voit la différence entre l'aristotélisme à la manière de saint Thomas et le néoplatonisme. Et le scapel hein, qui divise, qui précise. Que l'aimant soit dans l'aimé et inversement, cela peut s'entendre au double point de vue de la connaissance et de l'affectivité. Au premier point de vue, on dit que l'aimé est dans l'aimant. En tant qu'il demeure dans la connaissance de celui-ci, selon ces mots de l'apôtre, je vous porte dans mon cœur. L'aimant, à son tour, est dans l'aimé, au point de vue cognitif, en tant qu'il ne se satisfait pas d'une connaissance superficielle de l'aimé, mais s'efforce à scruter à fond tout ce qui est de lui et de pénétrer ainsi dans son intimité. C'est le sens de ces mots appliqués à l'Esprit Saint qui est l'amour de Dieu. Il pénètre même les profondeurs de Dieu. Vous voyez le passage hein, de la passion à l'amour spirituel surnaturel, c'est exactement... Alors, c'est un scandale, hein. Vous voyez bien, c'est, à la manière de Karl Barth, c'est un scandale. C'est le démon, l'analogie. Vous voyez là l'analogie au point de vue de l'amour. On passe de l'amour passionnel à l'amour spirituel et au Saint-Esprit, ce qui est encore mieux. La même ratio. Quand j'ai saisi ce qu'est l'amour, j'ai ces plans. L'amour passionnel, l'amour imaginatif, l'amour spirituel, l'amour divin. Et saint Thomas passe directement de l'amour surnaturel à l'amour passion. Ça, c'est un chef-d'œuvre, ça, pour moi. C'est merveilleux. Ça, c'est l'intelligence de saint Thomas, l'intelligence de l'amour. Hein. Et c'est l'intelligence de l'amour qui montre l'intelligence la plus pénétrante. C'est l'intelligence qui pénètre, qui va jusqu'au bout. Vous voyez les deux raisons. Hein. Les deux raisons, elle est facile à comprendre. Hein. Donc, l'amour réalise une inhésion mutuelle du côté de la connaissance. Du côté de la connaissance. L'aimé est dans l'aimant en tant qu'il demeure dans la connaissance de celui-ci. Je vous porte dans mon cœur. Et on dit je vous porte dans mon cœur, c'est-à-dire dans ma connaissance. Merveilleux. Je vous porte dans mon cœur parce que je vous connais. Du fait même que je vous aime, je vous connais. vous êtes présent. Et puis alors, deuxièmement, quand on aime quelqu'un, on veut aller toujours plus loin dans la connaissance. L'aimant, à son tour, est dans l'aimer, au point de vue cognitif, en tant qu'il ne se satisfait pas d'une connaissance superficielle de l'aimer. La connaissance superficielle, on passe. Un lieu de passage. Ah, je vous ai vu, oh, vous avez rien. Tandis que la connaissance de l'aimer veut aller plus loin, on demeure. Mais s'efforce de scruter à fond tout ce qui est de lui et de pénétrer aussi dans son intimité. Au point de vue affectif, on dit que l'aimer est dans l'aimant. En tant qu'il est dans le cœur de celui-ci, par une sorte de complaisance. Par une sorte de quam per quamdam complacentiam in eius affectu. Alors on a traduit dans son cœur, c'est in eius affectu. Hein? C'est plus profond. Hein? C'est la volonté, in eius affectu. C'est le cœur, si vous voulez, mais le cœur traduit métaphoriquement in affectu. Il demeure dans son affectivité. L'aimant se réjouit alors. L'aimant se réjouit alors dans l'aimer et dans ses biens. Quand ils sont présents. S'ils sont absents, son désir se porte vers l'aimer lui-même par l'amour de sa convoitise ou vers les biens qu'il lui veut par l'amour d'amitié. Et cela, non pour quelque motif extrinsèque, comme lorsqu'on désire une chose à cause d'une autre, ou que l'on veut du bien à quelqu'un en vue d'autre chose, mais à cause de la complaisance pour l'aimer enracinée dans le cœur. Et pour la complaisance. Propter complacentiam amati interius radicatam. Cette complaisance qui est enracinée, cette complaisance de l'aimer qui est enracinée dans le cœur de l'aimant. C'est pourquoi l'amour est appelé intime. Et l'on parle des entrailles de la charité. Inversement, l'aimant est dans l'aimer, mais différemment, selon qu'il y a amour de convoitise ou amour d'amitié. En effet, l'amour de convoitise ne se repose pas dans une quelconque possession ou jouissance extérieure et superficielle de l'aimer, mais il cherche à le posséder parfaitement et à le joindre, pour ainsi dire, en son plus intime. Dans l'amour d'amitié, au contraire, l'aimant est dans l'aimer, en ce sens qu'il considère les biens ou les maux de son ami comme siens, et la volonté de son ami comme la sienne propre, de telle sorte qu'il paraît recevoir et éprouver lui-même en son ami les biens et les maux. C'est pour cela que, d'après Aristote, le trait, c'est la première fois où il cite, hein, explicitement, il l'a cité avant, mais sans dire que c'est d'Aristote. C'est pour cela que, d'après Aristote, le trait caractéristique des amis est de vouloir les mêmes choses, d'avoir les mêmes peines et les mêmes joies. Idem valle. C'est ce fameux idem valle que prendra saint Thomas. C'est le idem valle qui caractérise l'amour d'amitié. Il n'y a pas de véritable amour d'amitié tant qu'il n'y a pas cette idem valle. Vouloir le même. C'est ça qui fait l'unité. C'est pour cela que, d'après Aristote, le trait caractéristique des amis est de vouloir les mêmes choses, d'avoir les mêmes peines et les mêmes joies. Ainsi donc, en tant qu'il considère comme sien ce qui est de son ami, l'aimant semble être en celui qu'il aime comme identifié avec lui. Identifié avec lui. La perte d'identité, comme on dirait aujourd'hui. Alors, il y a la perte d'identité, parce qu'il est identifié. Alors l'ami ne sait plus où est son où il est, puisqu'il est dans son ami. Et l'ami est en lui. Alors il y a comme identifié avec lui. Au contraire, en tant qu'il veut et agit pour son ami comme pour soi-même, le considérant comme un avec soi, c'est l'aimé qui est dans l'aimant. Donc il y a une espèce de relation mutuelle entre les deux. Il y a une troisième manière d'entendre cette mutuelle inhérence par l'amour d'amitié, c'est celle de l'amour partagé. Les amis s'aiment l'un l'autre, se veulent et se font mutuellement du bien. Alors ça, c'est plus extérieur, c'est par le point de vue de la bienveillance. On se veut mutuellement. Alors vous voyez que ça, c'est très important, hein. Cette inhésion mutuelle. Alors, est-ce que cette inhésion mutuelle est-elle un effet ou est-elle l'amour? Cette inhésion mutuelle n'est pas un effet extérieur. C'est l'amour qui creuse dans le cœur de l'amour. C'est l'amour qui creuse dans le cœur de l'ami une capacité toujours nouvelle d'aimer. Et alors c'est en ce sens-là que c'est un effet. Parce que vous permettez par l'amour d'aller toujours plus loin dans l'amour. Il n'y a pas de limite. Alors c'est une inhésion mutuelle. On devient de plus en plus capable de recevoir l'autre. Et on est de plus en plus capable d'être donné à l'autre. Donc, au point de vue connaissance, c'est facile à comprendre. Il n'y a pas besoin de difficulté. Nécessairement, tout amour spirituel implique une connaissance. Il y a la connaissance de l'ami, et la connaissance de l'ami fait que je le porte. Je vous porte dans mon cœur. C'est-à-dire, je vous aime, et alors parce que je vous aime, je vous porte dans mon cœur. L'amour, normalement, nous porte vers l'autre. Tandis que la connaissance fait qu'on porte l'autre dans son cœur, par l'amour. C'est l'immanence grâce à la connaissance. Et grâce à la connaissance, il y a une espèce de désir de scruter de plus en plus le cœur de l'ami. On veut connaître davantage. Pas quantitativement, hein. C'est très faux. Ah, je veux connaître votre histoire. On s'en fiche. C'est tout à fait inutile. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est tout à fait inutile. Tandis que c'est une connaissance interne. C'est tout à fait différent. Hein. Celui qui commence à vouloir « Ah, raconte-moi ta vie !» Non, quoi que ça signifie, ça. C'est secondaire, c'est tout à fait accidentel, c'est descriptif. C'est en dehors de l'amour. Mais on dit ça quand on ne sait pas quoi dire. Alors, ça peuple le vide. Mais quand il y a l'amour, on n'a aucune espèce d'importance de ça. C'est la personne telle qu'elle est. Alors, dans cette personne, s'il y a des faits importants dans sa vie, ah, très bien, alors c'est pas narratif. C'est la personne qui a vécu ça. C'est tout à fait différent. Oui. Bah, très bien, et c'est très très significatif, ces choses-là, vous voyez. C'est très très significatif. Vous avez, on ferait les transpositions dans l'ordre de la direction spirituelle. Forcé, dans l'ordre de la direction spirituelle. Alors, le père dit, alors racontez-moi votre vie. On l'a raconté 100 fois. Il faut recommencer. C'est pas ça. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la personne telle qu'elle est. C'est ça qui est intéressant. Parce que raconter la vie, voulez-vous, mais oui, bon, vous savez, c'est toujours à peu près la même chose. Hein. C'est vrai que c'est toujours à peu près la même chose. Il ne faut pas croire qu'il y a des choses extraordinaires. Oui, des dents de scie plus ou moins profondes, mais c'est toujours un peu en dents de scie. Il y a eu des jours merveilleux, des jours lamentables, des jours merveilleux, des jours lamentables. Et c'est comme ça notre vie. Hein. Vous croyez que Dieu va nous demander de nous raconter notre vie quand on le verra? Pas du tout, ça j'en suis sûr. C'est tout à fait inutile. Il nous prendra tel que nous sommes. Alors évidemment, tel que nous sommes, c'est le fruit de toute une quantité de choses. C'est important de détecter ce que c'est que l'amour. Hein, et détecter que l'amour veut une inhésion mutuelle. Donc une intimité profonde. c'est l'amour qui appelle l'amour. Hein. Ce n'est pas la connaissance. Pour la connaissance, ça fait une distraction. Alors, on se distrait. Alors, évidemment, ne mettez pas ça avec un couteau. Non, il ne faut rien connaître. Non, pas du tout. Il faut connaître. Il faut connaître. Mais il faut connaître intimement. Il ne faut pas connaître descriptivement. La connaissance descriptive est une connaissance très bien pour le roman, parce que c'est artistique. Mais le roman ne fait pas aimer toujours. Parce qu'on a tous son petit roman, feuilleton, n'est-ce pas ? On a tous son petit roman, c'est sûr. Mais ce n'est pas ça le point de vue important. Le point de vue important, c'est la pénétration plus profonde. Alors, je reprends pour qu'on le voit bien. Au point de vue affectif, donc l'inhésion affective, on dit que l'aimer est dans l'aimant. Alors, prenez toujours les deux aspects, parce que c'est relatif, hein, c'est important de voir. L'aimant, c'est le sujet actif. L'aimé, c'est celui... Il pâtit d'être aimé, forcément. Mais il pâtit d'être aimé dans le sens le plus noble et le plus grand qui soit. Il est aimé. Vous savez, saint Thomas pose la question dans le traité de la charité, est-il plus grand d'être aimé que d'aimer ? C'est une très belle question, ça. Est-il plus noble d'être aimé que d'aimer ? Dans l'ordre de la charité. Alors, est-il plus grand de se considérer comme aimé de Dieu ou d'aimer Dieu ? Ah, c'est très beau, parce que saint Thomas l'a dit en théologien, que c'est plus grand d'aimer que d'être aimé. Mais vous voyez qu'au point de vue surnaturel, on aime parce qu'on est aimé. Alors, la cause, mais comme saint Thomas regarde la charité, il la regarde comme source. Comme source, la charité doit être source d'amour. Alors ça fait deux spiritualités différentes. La spiritualité de ceux qui disent ce qu'il y a de plus grand dans leur raison, c'est de se savoir aimer. Ce qu'il y a de plus grand dans leur raison, c'est de se donner à Dieu. Il ne faut pas opposer. Mais c'est intéressant de voir les deux aspects. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand dans leur raison ? Est-ce que c'est d'être aimé ? C'est de se laisser aimer. Ou c'est d'aimer. Vous n'êtes jamais posé le problème. Mais c'est quand même important. Tous les spirituels se posent le problème. Est-ce que c'est plus intéressant, est-ce que c'est plus important d'être aimé ou d'aimer ? Alors, saint Thomas, en théologien, dit c'est plus grand d'aimer. Et je comprends très bien. Puisque aimer, c'est actuer notre charité. Quand vous faites un acte d'amour, vous actuez votre charité. Donc votre charité touche sa fin. Être aimé, c'est l'aspect passif. Je suis aimé. C'est l'aspect passif. Mais en même temps, au point de vue surnaturel, c'est la source. Être aimé de Dieu, être aimé du Père, c'est ce qui est plus grand. La salutation que Marie reçoit de l'ange, pleine de grâce, pleine d'amabilité, tu es parfaitement aimé. Et c'est vrai que c'est ça qui est le plus foncier. Alors voyez, au point de vue contemplatif, c'est sûr, c'est d'être aimé, c'est de considérer se laisser aimer par Dieu qu'être plus grand. Mais en même temps, pour se réveiller, c'est d'aimer qu'il y a le plus grand. L'aspect finalité, l'aspect efficience. Hein. C'est l'aspect finalité, l'aspect efficience. Les deux qui se tiennent. Alors, il ne faut surtout pas les séparer, il faut les distinguer. Alors, vous avez ici donc quelque chose d'analogue, mais ici c'était évidemment au niveau plus humain, dans le point de vue. Donc, on dit que l'aimer est dans l'aimant. On dit que l'aimer est dans l'aimant, l'illusion mutuelle, en tant qu'il est dans le cœur de celui-ci par une sorte de complaisance. L'aimant aime l'aimé, et parce qu'il aime l'aimé, l'aimé est présent en lui, par une sorte de complaisance. L'aimant se réjouit alors dans l'aimé, ou dans ses biens, dans ses qualités, quand ils sont présents. S'ils sont absents, son désir se porte vers l'aimé lui-même par l'amour de convoitise, ou vers les biens qu'il lui veut par l'amour d'amitié. Il voudrait lui donner tout. Tu es absent, je voudrais tout te donner. Je voudrais te... Vous voyez, on veut l'amour d'amitié ou l'amour de convoitise. Ah, je voudrais tellement que tu sois là, tu serais ma joie. Quand tu es absent, il y a un creux, il y a un vide, ça ne va plus du tout. On voit très très bien la chose. C'est un vide quand tu n'es pas là. Quand tu es là, alors c'est merveilleux, c'est extraordinaire. On voit très bien. C'est la lettre d'une mère à son fils, quand son fils est lointain, il y a un creux depuis que tu es parti. Il y a un vide depuis que tu es parti. Quand tu dis que tu reviendras, alors immédiatement. C'est très beau, ces choses-là. Et c'est vrai, c'est ça l'amour. L'inésion entre les deux, n'est-ce pas? Parce que. Alors on se porte vers l'aimé par convoitise ou vers les biens qu'il lui veut par amour d'amitié. Et cela non pour quelques motifs extrinsèques, et ça c'est très important, comme on désire une chose à une cause d'un autre, d'une autre, ou que l'on veut du bien à quelqu'un en vue d'autre chose. Mais à cause de la complaisance pour l'aimer, enracinée dans le cœur. C'est pour l'aimer qu'on lui veut ce bien. C'est pour lui qu'on lui veut ce bien. Et non pas pour autre chose. Si c'était pour autre chose, ce serait tout à fait différent. Ce ne serait plus l'amour. C'est pourquoi l'amour est appelé intime. Et l'on parle d'entrailles de la charité. Inversement, l'aimant est dans l'aimé, donc le mouvement inverse. L'aimant est dans l'aimé. Inversement, l'aimant est dans l'aimé, mais différemment selon qu'il y a amour de convoitise et amour d'amitié. En effet, l'amour de convoitise, donc l'aimant est dans l'aimé, l'amour de convoitise ne se repose pas dans une quelconque possession ou jouissance extérieure et superficielle de l'aimer. Mais il cherche à le posséder parfaitement et à le joindre, pour ainsi dire, en son plus intime. Donc ça, c'est la convoitise. Alors l'aimant est dans l'aimer, par convoitise, parce qu'il cherche la plus grande intimité. Dans l'amour d'amitié, au contraire, l'aimant est dans l'aimer en ce qu'il considère les biens et les maux de son...